France Culture.
Par le très sérieux Institut Fraunhofer de Dresde, ont surclassé les testeurs humains. L'IA a ainsi détecté, avec un taux de réussite de 94%, si un whisky était américain ou écossais. Elle a aussi identifié les 5 notes qui dominaient dans chacun des échantillons test avec plus de précision que n'importe quel expert du panel. L'intelligence artificielle a ainsi remarqué que des notes caramélisées sont par exemple typiques des whiskies américains. À l'inverse, elle détecte dans les whiskies écossais des notes fruitées, de pommes et des notes de phénol qui donne à l'alcool un goût de tourbe un peu fumé. Pour entraîner les algorithmes, les auteurs de l'étude leur ont soumis plusieurs échantillons afin de leur apprendre à reconnaître 390 molécules, celles que l'on retrouve le plus souvent dans les scotch et les bourbons. Ils ont aussi fourni à l'IA une sorte de grille de lecture pour l'aider à associer ses observations à des mots-clés comme floral, boisé, fruité ou parfumé. D'après les chimistes, l'intelligence artificielle présente plusieurs avantages. Elle peut être utilisée pour détecter les whiskies contrefaits et pour assurer le contrôle qualité. Les algorithmes peuvent aussi servir lors de l'assemblage de nouveaux whiskies à évaluer si le produit a l'arôme espéré.
Alors, l'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner le monde de l'œnologie ? Écoutez Gabriel Le Pouzet, il est neurobiologiste et chercheur en perception sensorielle.
L'IA arrive très bien à reconnaître des signatures communes entre des profils chimiques d'un même château. Elle arrive à différencier la rive gauche de la rive droite de Bordeaux, par exemple. Donc ça montre que si les données sont riches, on peut facilement identifier un château avec une puissance de prédiction de l'ordre de 99% sans problème. Mais la question derrière, qui nous intéresse plus dans les sciences de la perception et de l'œnologie, c'est de savoir est-ce que cette prédiction-là, elle nous aide à comprendre qu'est-ce que va ressentir le consommateur, qu'est-ce que va ressentir le dégustateur. Et ça, malheureusement, l'IA n'est pas du tout capable de prédire ça. Dit autrement, il n'y a pas encore de sommelier virtuel, il n'y a pas encore d'œnologue virtuel capable de prédire le goût d'un vin à partir d'une analyse chimique. On peut prédire son identité, mais on ne peut pas prédire son goût ni ce que va percevoir, par exemple, un client ou un dégustateur.
Propos recueillis par Grégoire Motte. La météo avec 30 départements désormais placés en vigilance orange pour neige et verglas en raison d'une perturbation qui va toucher le nord et l'est du pays en fin d'après-midi. Les températures vont donc rester froides au nord entre 0 et 4 degrés, mais elles se radoucissent au sud où on prévoit 8 à 14 degrés en moyenne.
Vous écoutez France Culture.
Radio France fête ses 50 ans, 50 ans de présence à vos côtés.
Est-ce que vous me recevez ?
À Beauziac, c'est dans le Lot-et-Garonne, enfin à côté de Beauziac même, ça ne va pas être bien grand.
La nuit sera assez douce, demain il fera meilleur qu'aujourd'hui, jusqu'à 22 degrés à Paris, et miracle, il ne pleuvra pas.
Une nouvelle demande pour l'émission du 14 août sur le sage africain Amadou Empaté Ba.
Ça fait 2 ans que la municipalité, le conseil municipal, essaye de voir avec la DAS, et à ce jour, on a l'impression de parler à un mur.
Allô ?
Oui, oui.
Oui, c'est une situation vraiment exceptionnelle. La tempête, déjà ce matin sur les côtes bretonnes, vendéennes ou normandes, s'est décalée vers l'intérieur des terres.
Super public.
Oh là là, pardon, madame Christiane.
De Fréjus.
On dit Fréjus.
Oui, vous dites un jus de pamplemousse.
D'une mer à perte de vue, de l'Arc de Triomphe à la Concorde, au milieu de la foule engloutie, un bus impérial qui émerge dans le soleil. C'est là que sont installés nos 22 champions du monde, la tête dans les nuages et le cœur forcément retourné par cette billette.
160 km à l'heure.
Nous sommes sans courant et sans eau depuis lundi soir.
Ça, c'est quelqu'un qui se trompe. Ça, c'est quelqu'un qui va dire « Allez, boucherie, chevaline ou...
Ça fait 50 ans que nous partageons tout cela et il nous reste tant à vivre ensemble.
Midi 46, presque 47, et vous retrouvez Sens Politique avec Astrid de Villene. Bonjour et bonne année Astrid.
Bonjour, bonne année Julie, merci beaucoup. Et bonjour à toutes et à tous. Au nom de toute l'équipe de Sens Politique, permettez-moi de vous souhaiter une très belle et heureuse année 2025. Vous écoutez Sens Politique, l'émission qui prend le temps, chaque samedi, de connaître une personnalité pour décrypter avec elle son parcours, son engagement, au rythme de l'actualité. Notre invitée est une frondeuse, même si elle n'apprécie pas l'étiquette. Elle préfère parler de conviction et d'ancrage. Les origines italiennes qui lui font défendre les exilés et les Lorraines qui lui rappellent d'où elle vient. Fille et petite-fille de mineurs de fonds, elle fait une scolarité exemplaire en Moselle, au point d'être admise en prépa littéraire à Henri IV, où elle n'ira pas. Ses parents n'ont pas les moyens de la loger à Paris. Ce sera le lycée Georges de la Tour à Metz, admise à Normale Sup, direction enfin la capitale, agrégée de lettres classiques, romancières, les lettres d'abord, la politique ensuite. D'abord chez les Verts, le parti qui lui ressemble le plus, du moins le pense-t-elle avant d'y entrer. Après trop de désaccords, elle rejoint le Parti Socialiste et la campagne présidentielle de Ségolène Royal, mission plume de candidate. La même année, en 2007, elle entre à l'Assemblée comme députée de Moselle, un mandat qu'elle ne quittera que 10 ans plus tard, battue aux législatives de 2017, comme beaucoup de socialistes et la plupart des députés frondeurs. Elle pense que toute littérature est un engagement, même la poésie la plus hermétique. Elle aime la Boétie et ne supporte pas le cynisme, elle nous dira si c'est compatible avec l'engagement politique. Après avoir été ministre de la Culture pendant 2 ans sous François Hollande, elle est aujourd'hui directrice des affaires culturelles à la mairie de Paris. Bonjour Aurélie Filippetti.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, bonne année.
Bonne année.
Merci à vous de nous écouter comme chaque samedi. Bienvenue en 2025, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 13h30. Vous vivez-vous comme une transfuge de classe, Aurélie Filippetti ?
Je n'aime pas beaucoup cette expression parce que finalement, on est transfuge. Enfin, transfuge, ça voudrait dire qu'on s'est enfui. C'est pas vraiment une fuite. C'est plutôt un parcours, un chemin. Et ce chemin, c'est celui qui permet effectivement de passer d'un milieu à un autre avec une part de à la fois d'inconfort, mais aussi finalement une certaine distance avec le milieu où l'on arrive. Et ça, c'est assez salutaire, je crois.
Peut-on faire de la politique sans cynisme?
Alors, je crois que c'est difficile, mais c'est la seule voie. Et en particulier aujourd'hui, je pense que la seule voie, c'est que les gens fassent de la politique par conviction et non pas pour faire carrière. C'est vrai que aussi la politique est très violente. Quand on exerce des mandats importants, on est soumis à rude épreuve. C'est beaucoup de sacrifices et donc souvent les gens se forgent une sorte de carapace qui peut vite devenir du cynisme. Et je crois que là, c'est le moment où il faut avoir une ligne rouge et savoir finalement s'arrêter avant de sombrer dans le cynisme.
Alors, en retraçant votre parcours avec Léa Varin qui m'a aidé à préparer cette émission, on a découvert qu'en 2011, vous soutenez directement François Hollande,
ouais,
à la primaire du Parti Socialiste, alors que vous aviez soutenu, je le disais en introduction, Ségolène Royal en 2007, et qu'on pourrait se dire que vos idées sont plus proches de celles de Martine Aubry. Si ce n'était pas du cynisme, est-ce que c'était de la stratégie ?
C'était pas de la stratégie. Moi, j'avais été j'étais membre du bureau national du Parti Socialiste, etc. Et donc, je connaissais bien aussi bien Martine Aubry que François Hollande. Et je pensais que François Hollande était celui qui était le mieux à même de battre Nicolas Sarkozy. Et donc, c'était vraiment la priorité. Et c'est vrai que je l'ai soutenu dès la primaire. J'ai même été sa porte-parole pendant la campagne des primaires du Parti Socialiste en 2011. Mais il avait aussi un programme qui était un programme qui me satisfaisait tout à fait à ce moment-là et que je trouvais très bien, notamment, par exemple, sur les questions de politique industrielle, sur la question des hauts fourneaux de Florange, donc en Moselle, là où j'étais élue. Il était très engagé sur ces questions-là et également sur l'éducation. Enfin voilà, donc il y avait aucune forme de cynisme, mais c'était vraiment parce que on était dans une époque face à Nicolas Sarkozy, face à une droite très très virulente. Ça fait aujourd'hui, voilà, ça semble très très loin, mais il portait un espoir, François Hollande. Et d'ailleurs, cet espoir a été partagé par une majorité de Français, puisqu'il a gagné.
Vous mentionnez Florange. Est-ce que vous diriez que c'est cette date, le 24 avril 2013, qui symbolise l'échec du quinquennat? C'est à ce moment-là que prend fin le long conflit social qui avait débuté en 2011 et la fermeture des hauts fourneaux à Hayange.
Oui, c'est une longue histoire, parce que en fait, ça avait commencé déjà en 2008, parce qu'avant Florange, il y avait eu Gandrange. Et bon, ça se touche, hein. Donc tout ça, il se trouve que c'est vraiment mon département en plus, donc je connaissais très bien ce dossier.
Et vous avez grandi là.
J'ai grandi là, donc j'avais suivi tout ça, et les syndicalistes, sidérurgistes, je les connaissais tous. On avait fait toutes les mobilisations ensemble sous Sarkozy, justement, et contre Sarkozy, et contre le cynisme de Sarkozy. Et c'est vrai que le renoncement de François Hollande à une prise de contrôle public temporaire, hein, qui était prévue pour être temporaire. Mais ce renoncement-là a été finalement le signe et le symbole et peut-être aussi le moment un peu annonciateur des renoncements du quinquennat. Enfin, en tout cas, ce que moi, je considère comme des renoncements du quinquennat.
Vous, à ce moment-là, vous êtes ministre de la Culture. Mmh, est-ce que vous vous entretenez avec François Hollande directement? Vous essayez de peser de toutes vos forces sur cette
question-là? Bien sûr.
Comment vous faites?
On avait des réunions régulièrement, et puis on avait des discussions informelles aussi sur ce sujet, puisque j'avais accompagné François Hollande à Florange pendant la campagne présidentielle, et en février 2012, donc avant qu'il soit élu, ça avait été peut-être le moment le plus fort de sa campagne présidentielle. Il était monté sur une camionnette, il avait saisi un mégaphone et il s'était adressé à la foule des ouvriers qui étaient là, justement pour prendre des engagements, qui étaient des engagements. C'était pas des promesses, c'était des choses qui étaient raisonnables, qui étaient faisable, qui était rationnel. Je veux dire, c'était pas des promesses de campagne comme on peut en faire. Non, ça c'était tout à fait faisable. Et ça avait été, je pense, le tournant de sa campagne présidentielle. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il a gagné, parce qu'il avait su trouver finalement les mots pour parler à ce monde du travail, à ce monde des classes populaires que la gauche cherche toujours finalement à reconquérir depuis.
Et qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'il n'y arrive pas? Est-ce que c'est, comme vous l'avez écrit à ce moment-là dans Mediapart, il n'a pas réussi à résister à la doxa libérale et à la technocratie, ou c'est autre chose?
Oui, je pense qu'il y a à ce moment-là, quand on devient président, quand on atteint ce niveau-là de responsabilité, on est évidemment soumis à beaucoup de pressions, et c'est des pressions de toutes sortes. Hein. Et lui, son analyse a été que finalement, la décision qu'il prendrait allait être mal jugée, aussi bien par les marchés financiers internationaux que par des partenaires peut-être européens, que ça serait pas compris. Mais la réalité, c'est que cette décision, il fallait justement l'expliquer comme étant une nécessité pour aussi reconstruire le tissu industriel français qui avait été beaucoup trop sacrifié au cours des années précédentes et qui continue d'ailleurs de l'être. Donc, c'est, à mon sens, c'est un renoncement qui... Il y a des renoncements qui sont nécessaires, mais celui-là ne l'était pas et qui a été vécu par beaucoup, y compris par moi, comme une forme de trahison.
Alors si on reste en 2011, c'est aussi l'année de la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon. À ce moment-là, vous défendez un moratoire sur les nouvelles installations nucléaires françaises. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez toujours sortir du nucléaire, ou vous avez, comme beaucoup, évolué sur ce sujet?
Évidemment, la situation géopolitique internationale, elle nous fait évoluer. Et on voit bien qu'avec ce qui se passe en Russie, on ne peut pas être dépendant du gaz russe comme l'était plutôt l'Allemagne, qui s'est retrouvée dans une situation catastrophique à cause justement de cette dépendance. Et parce qu'ils étaient sortis sous la décision d'Angela Merkel du nucléaire. Donc aujourd'hui, la France bénéficie d'un tissu nucléaire. On a 58 réacteurs maintenant mis en place de Flamanville en plus. Bon, mais ceci dit, le nucléaire n'est quand même pas une solution d'avenir, parce que ce n'est pas une solution qui est exportable à l'infini dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que... plus on multiplie le nombre de centrales, plus les risques d'accidents sont élevés. Et puis, il faut des organismes de contrôle, il faut une transparence, il faut être sûr justement de tout le système politico-économique qu'il y a autour pour pouvoir avoir un nucléaire relativement sûr. Donc, c'est pas une solution qui est universalisable. Donc, c'est, disons, une solution temporaire pour nous, tant mieux. Aujourd'hui, tant mieux. Mais en tout cas, il faut évidemment faire décroître notre consommation d'énergie, et c'est ça la seule solution.
Alors aujourd'hui, Aurélie Filippetti, vous êtes à la tête des affaires culturelles de la mairie de Paris, côté administration donc, et vous dirigez 2800 agents municipaux. Ça semble beaucoup. Alors c'est vrai qu'il y a tous les agents des bibliothèques, des théâtres, de toute la culture très présente à Paris.
Des conservatoires.
Mais est-ce que c'est pas trop? Non, mais vous entendez toutes ces critiques sur la dette de la mairie de Paris, hein, qui est passée quand même de 4 milliards d'euros en 2014 à aujourd'hui 9 milliards d'euros. On entend beaucoup de critiques sur tous ces agents. Il y en a 51 000 en tout à Paris. Quelle est, vous, de l'intérieur, votre vision là-dessus? Vous avez besoin de toutes ces...
Alors, effectivement, dans les services d'affaires culturelles, vous l'avez dit, il y a presque 3000 agents, en fait, hein, si on compte les gens qui sont à temps partiel, etc. On a plus de 3000 personnes physiques. Mais qu'est-ce qu'elles font, ces personnes? Elles travaillent, vous l'avez dit, dans les bibliothèques, dans les conservatoires. Donc, c'est des professeurs qui apprennent la musique, le théâtre, la danse à nos enfants. Ce sont aussi des gens qui vont restaurer les églises, par exemple, le patrimoine culturel de Paris et le patrimoine culturel aussi, restaurer les statues qu'on voit dans l'espace public. Ce sont des gens qui permettent l'installation d'œuvres d'art dans l'espace public. Ce sont des gardiens de musées qui, dans les musées de la ville, il y a 14 musées pour la ville de Paris. Donc, est-ce qu'on a envie de se passer de tous ces services-là? Est-ce que finalement le coût, ce que coûte la culture, n'est pas bien inférieur à ce que finalement la culture nous apporte? C'est pas seulement ce qu'elle nous rapporte, parce qu'elle nous rapporte aussi beaucoup à la ville de Paris comme à la France, hein, en termes de retombées économiques, en termes touristiques par exemple, mais elle nous apporte à tous individuellement énormément. Ça fait de nous des citoyens, des citoyennes plus éclairées, et ça fait de nous des individus plus libres.
Comment on manage, est-ce qu'on manage 2800 agents municipaux, ou en fait c'est très bien délégué et vous supervisez tout ça?
Oui, moi je supervise, mais enfin il y a aussi évidemment, comme partout, hein, comme dans toutes les relations sociales, il peut y avoir des tensions, etc. Mais je dois dire qu'à la ville de Paris, il y a vraiment un esprit de bienveillance qui règne, et un souci justement de mettre les objectifs politiques que l'on a, qui sont des objectifs progressistes, en accord avec les politiques sociales qui sont menées à l'intérieur de la ville. Donc ça, c'est pour moi, c'est une grande satisfaction aussi, parce que bon, j'ai été ministre, quand on est ministre, on est aussi responsable d'une administration, de toute l'administration de l'État. Donc, quand j'étais ministre de la Culture, il y avait 30 000 fonctionnaires de l'État qui étaient sous ma responsabilité. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus loin. Là, je suis plus en pilotage, beaucoup plus près. Et c'est aussi extrêmement agréable, ça.
Vous soutenez Rémi Féraud ou Emmanuel Grégoire pour 2026?
Ben alors là, je vais faire jouer mon devoir de réserve. En tout cas, je soutiens le Parti Socialiste, et évidemment, ben, Rémi Féraud est le candidat qui a été choisi, enfin qui y aura un vote. Donc il a toute ma sympathie, bien sûr. On va pas changer le monde en deux ans, d'ici les prochaines élections législatives, présidentielles, mais on doit régler un certain nombre de problèmes, et en tout cas, on doit faire en sorte que ce pays soit gouverné. Là-dessus, effectivement, on peut lister les sujets
c'est,
et lister...
C'est ce ça que ça veut dire, se salir les mains.
Ça veut dire
sortir de la pureté.
On peut regarder la pureté, vous savez, c'est toujours un concept quand même assez totalitaire. C'est des gouvernements totalitaires qui veulent la pureté. La démocratie, c'est pas ça. Un philosophe que le président de la République aimait bien jadis, c'est Paul Ricoeur, il disait la démocratie, ce n'est pas nier les oppositions des groupes d'intérêts dans la société. Effectivement, les salariés, les ouvriers, ils ont pas les mêmes intérêts, c'est normal, économique, etc., que des professions libérales. Mais la démocratie, c'est de permettre de trouver les moyens, les méthodes pour que, eh bien, finalement, on arrive à vivre en société et à faire un certain nombre de choses.
C'est votre voix qu'on entendait, Aurélie Filippetti, le 16 décembre dernier sur le plateau de C'est ce soir sur France 5. Et au même moment, vous publiez dans Le Monde une tribune. Face à l'extrême droite, la gauche doit assumer de se salir les mains dans un exercice de coalition. Elle ne vous a pas écouté?
Je dirais que c'est surtout le président de la République qui n'a pas écouté, enfin il n'a pas à m'écouter, mais en tout cas il n'a pas écouté les appels au rassemblement et à la construction d'une coalition. Il n'a pas du tout souhaité ça. Et je dirais malheureusement François Bayrou, qui aurait pu incarner cela, c'est pas le choix qu'il a fait avec le gouvernement tel qu'il se dessine aujourd'hui. On a l'impression que c'est finalement comme le gouvernement de Michel Barnier, donc c'est assez dommage.
Mais il a tendu la main aux socialistes qui ont refusé d'entrer.
Oh, il a tendu la main, mais il n'a pas fait un véritable contrat de gouvernement. L'idée, un contrat de gouvernement, c'est pas débaucher individuellement des gens. C'est de dire, voilà, il faut qu'on travaille sur un programme pour les deux ans à venir dans tel ou tel domaine. Et puis, on a un objectif, c'est finalement l'intérêt général du pays. Donc, on va faire un travail avec les groupes parlementaires, les partis qui au sein du Parlement sont représentés et peuvent constituer une majorité. Mais c'est un travail sur le fond et c'est pas un travail sur les personnes. Et ça n'a pas été fait. Et ce qui me Ce qui m'afflige, ce qui m'atterre, ce qui m'inquiète, c'est que ce gouvernement est une fois de plus dans les mains du Front National. Le Rassemblement National, pardon, j'ai vraiment du mal à... Parce que pour moi, c'est le Front National. C'est le Rassemblement National qui tient ce gouvernement comme finalement on tient une marionnette par des fils. Et quand le Rassemblement National aura décidé de faire tomber ce gouvernement, il le fera tomber. Et ça c'est terrible. C'est ça qu'aurait pu éviter... une coalition majoritaire avec des partis qui, certes, ne sont pas d'accord entre eux, mais qui auraient pu s'entendre sur un programme précis pendant les deux ans à venir.
Donc, pour vous suivre, il fallait aller du Parti Socialiste au Républicain.
En tout cas, du Parti Socialiste à Ensemble, à Horizon. Les Républicains, c'est un petit groupe à l'Assemblée, c'est 47 personnes.
Mais il y a besoin de deux, si on...
Non. Si on prend le Parti Socialiste, les Verts, les Communistes, Ensemble, Horizon, le Modem, les partis du Centre, on arrivait à peu près à 300 députés, donc c'était suffisant. Donc les Républicains, ou une partie des Républicains auraient pu venir, à condition de respecter un certain nombre de principes. Mais, par exemple, quand Bruno Retailleau réclame une nouvelle loi sur l'immigration avec des principes tels qu'il les avait énoncés, qui ne sont pas compatibles finalement avec la République, bah ça c'est pas acceptable. Donc la coalition à laquelle moi je pensais, qui aurait été d'ailleurs numériquement tout à fait suffisante, c'était plutôt une coalition qui allait socialiste, vert, communiste, jusqu'au parti centriste. Mais, encore une fois, le plus grave aujourd'hui, c'est finalement que le président de la République a choisi... une fois encore, de se remettre dans les mains du Rassemblement National. Et ça, je crois que c'est le danger principal pour notre pays. Cette banalisation du Rassemblement National, pour moi, c'est la menace numéro un.
En 2001, vous étiez vice-présidente de la Convention pour la 6e République, groupe de réflexion politique fondé par le socialiste Arnaud Montebourg. Qu'est-ce que vous en tirez? C'était il y a déjà plus de 20 ans. Est-ce qu'il faut aller vers ces changements d'institution pour résoudre cette crise sur lesquelles vous avez déjà travaillé pendant toutes ces années?
À l'époque, je pensais qu'il fallait un changement d'institution. Aujourd'hui, je me dis que les institutions, elles sont aussi ce que les hommes et les femmes en font dans l'exercice de leurs responsabilités. Donc, j'ai pas forcément le fétichisme du changement de numéro pour la Constitution, même si, évidemment, ça serait sans doute plus simple, mais c'est politiquement plus compliqué. En tout cas, je trouve que la France est un pays beaucoup trop centralisé et où le pouvoir est beaucoup trop centralisé, évidemment, dans les mains d'une seule personne, le président de la République. Et je crois qu'on paye ça, vraiment, que c'est extrêmement handicapant pour notre pays.
Donc il faut les changer, ces institutions.
Ou il faut changer la pratique qu'on en a. Et en l'occurrence, finalement, c'est les Français qui ont décidé de les changer, de facto, par le résultat des élections législatives qui ont eu lieu au début de l'été. Puisqu'ils ont refusé de donner une majorité au président de la République pour faire ce qu'il voudrait faire. Donc ils ont dit, nous on veut un partage plus équitable du pouvoir et des responsabilités, mais ce qu'on ne veut pas, et leur message était très clair, ce qu'on ne veut pas, c'est que ce soit le Rassemblement National qui gouverne. Et je trouve que ce qui se passe en ce moment, ben malheureusement, c'est le contraire de l'expression du vote des Français.
Vous pensez qu'il peut tenir Emmanuel Macron?
Alors, je pense que il a annoncé de toute façon qu'il ne quitterait pas la présidence de la République. Et par ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, chercher absolument à provoquer la démission du président de la République est plus semeur de désordre qu'autre chose. Je pense que le pays, il a besoin surtout d'être apaisé et qu'on pourrait, encore une fois, même... en attendant 2027 et en attendant l'élection présidentielle, on pourrait travailler différemment avec un gouvernement et une majorité parlementaire qui accepterait de faire un peu, disons, profil bas, de se mettre au service des Français. Et pas évidemment, c'est pas le grand soir ou voilà, mais en tout cas de faire une politique concrète qui permettrait de résoudre quelques problèmes d'ici deux ans. Et il faut arrêter de penser que tout va se résoudre par l'élection de telle ou telle personne comme président de la République. Je pense que ça, c'est un peu infantile et dépassé.
Vous avez écouté les vœux du président Macron le 31 décembre ?
J'avoue que non, mais j'ai lu le compte-rendu qui en a été fait par la presse.
Il a ouvert la voie à des référendums, enfin c'est comme ça qu'on l'a interprété. Il a dit aux Français qu'il allait les appeler à trancher. Est-ce que ce serait une bonne idée selon vous, un référendum ou plusieurs pour sortir de cette situation ?
Alors je pense que c'est absolument certain que aucun référendum ne permettra de sortir de cette crise, que ce n'est pas le référendum qui permet de sortir d'une crise de toute façon, et que quand on pose des questions par référendum, on sait très bien que les gens répondent à celui qui pose la question et non pas à la question qui est posée. Enfin, concernant le sujet d'un éventuel référendum, je ne vois pas très bien ce que ça pourrait être aujourd'hui, sauf si effectivement ils voulaient complètement changer les institutions et la Constitution. Mais je crois pas qu'il aura le temps de faire ça. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en quelques semaines comme ça. Si c'était introduire la proportionnelle aux élections législatives, je pense que dans la situation où on est, ça serait très dangereux parce que ça serait encore une fois renforcer le Rassemblement national qui n'en a vraiment pas besoin. Donc non, je pense que le référendum, c'est pas du tout une bonne méthode pour apaiser cette crise politique en France.
France Culture, Sens Politique, Astrid de Villene.
Madame Filippetti a été victime de propos sexistes. Il paraît même qu'on m'y a mêlé avec une classe sur les sujets qui fâchent. Moi, j'accepte la contradiction. Il y en a qui l'acceptent pas. Moi, je suis allé dans le 5e arrondissement dans un compte-rendu de mandat pour présenter y compris ce projet-là. Et on m'a critiqué. Et je n'ai pas créé un climat de violence. Je n'ai pas monté des gens. J'ai écouté. Vous allez vous...
Qu'un élu de la République se permette d'avoir des violences physiques, ça ne vous impressionne pas. Et ça, c'est scandaleux. Et je tenais à le signaler là. Vous n'en avez pas dit un mot, monsieur le maire.
Vous aggravez votre cas. Et je crois qu'il ne devient très lourd. Si, parce que moi, j'avais demandé s'il y avait des fausses électeurs dans le 18e.
Vous avez reconnu ces deux voix, Aurélie. Oui. Le maire de l'époque de Paris, Bertrand Delanoë, et son prédécesseur qui siège encore à ce moment-là au Conseil de Paris, Jean Tiberi. C'est un extrait qu'on a trouvé dans un reportage de Daïko Doui sur France 3 dans la tranche du 19-20 Paris-Île-de-France. Je l'ai trouvé parce que vous, à ce moment-là, vous êtes en tribune, Aurélie Filippetti, puisque vous vous êtes présentée sur la liste socialiste du 5e arrondissement en 2001. Vous n'avez pas été élue, vous êtes élue conseillère municipale d'opposition. Mais il y a eu une sorte d'accrochage avec Xavier Tiberi, la femme de Jean Tiberi. Elle a porté plainte contre vous, elle a eu 10 jours d'ITT, interruption totale de travail, vous l'accusez de vous avoir insulté, et finalement c'est un classement sans suite, vous vous souvenez de cet épisode ?
Oui, je me souviens très bien parce que c'était quelques temps après l'élection municipale de 2001, j'étais conseillère d'arrondissement dans le 5e, et alors il faut remettre les choses dans le contexte, il y avait des faux électeurs dans le 5e arrondissement, la justice a tranché depuis, hein. Puisque c'était il y a 24 ans.
Les époux Tiberi ont en effet été condamnés.
Et voilà, les époux Tiberi ont été condamnés pour
trois
cela.
Fois, enfin deux fois en appel, et puis aussi la Cour de cassation a validé.
Et avec, donc moi j'étais candidate pour les Verts dans le 5e arrondissement, et avec Lynn Cohen-Solal qui était candidate pour le Parti Socialiste, on avait mené la campagne ensemble contre Jean Tiberi. Et c'est vrai que sa femme était omniprésente dans cette campagne, et puis dans l'arrondissement. Et après l'élection, Bertrand Delanoë avait proposé d'accueillir, de faire des restaurants qui soient ouverts aux personnes sans domicile fixe. Et donc de les accueillir pour leur donner des repas dignes dans des restaurants municipaux de la ville dans le 5e arrondissement. Donc il y a eu une réunion publique sur ce sujet et avec une ambiance qui était complètement... hystérique, puisque des gens tenaient des propos horribles sur le fait que ces personnes à la rue allaient apporter des microbes dans le 5e arrondissement. Enfin, c'était terrible. Et moi, j'ai défendu la position du maire de Paris, que je trouvais extrêmement solidaire et responsable. Et puis, au sortir de la réunion, j'ai été agressée par Madame Tiberi, agressée très violemment, et par son clan, parce que c'était vraiment un clan. Et puis, elle m'a insultée, comme le disait Bertrand dans l'extrait, là. Et le lendemain matin, quand je suis allée au commissariat pour porter plainte pour injure, je me suis rendu compte qu'elle, elle avait porté plainte contre moi.
En tout cas, la justice a tranché sans suite. Mais ce qui m'intéresse surtout dans cet extrait, ce sont vos débuts en politique locale, en tout cas Aurélie Filippetti, déjà à Paris, et notamment chez les Verts. Pourquoi vous vous engagez chez les Verts? Je crois que votre famille était plutôt communiste.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que vous vous dites à un moment, ce sont ceux qui me ressemblent le plus? Et on va le voir, très vite, vous vous en... d'affranchissez, enfin vous quittez le mouvement.
Bah, mes parents étaient communistes, effectivement, et je dois dire que moi, j'ai quand même été... j'avais 16 ans au moment de la chute du mur de Berlin. Je pouvais pas être communiste parce que je voulais tirer les leçons de l'histoire en quelque sorte, et je considérais que j'étais à gauche, mais j'étais anti-totalitaire, et je voulais m'engager dans un parti qui soit à la fois profondément démocrate et puis aussi féministe, comme l'étaient les Verts, ils ont été très précurseurs là-dessus. Puis les questions écologiques m'intéressaient, c'est vrai. Le lien entre l'écologie et le social, j'ai toujours trouvé que c'était la bonne manière d'aborder la crise environnementale, pour que ce soit justement que l'effort face à la transition écologique soit équitablement réparti. Donc, j'étais très heureuse de rejoindre ce parti à la fin des années, enfin presque en 2000. Mais malheureusement, je dirais, ça a été surtout sur la question de l'antisémitisme finalement, et sur ces questions-là, c'est ça qui m'a fait quitter les Verts en fait.
J'allais y venir, et je trouve qu'il y a une forme d'écho avec aussi ce que vit la gauche aujourd'hui. On est à ce moment-là en 2003, en pleine guerre en Irak. Il y a des manifestations contre la guerre, notamment à Paris, et là, deux jeunes juifs de l'association de gauche à Chaumère, à Dzaïr, sont agressés. Et les Verts dont vous faites partie se divisent sur l'attitude adoptée. Si tout le monde condamne l'agression, vous vous appelez au nom des Verts Paris à défiler avec un drapeau israélien et un drapeau palestinien. Et cette prise de position ne passe pas au sein des Verts.
Oui, c'est vrai qu'il y avait eu des, il y a eu cette agression antisémite dans un cortège contre la guerre en Irak, dont on était tous évidemment dans la manif. Agression antisémite et puis des drapeaux israéliens brûlés. Et moi, j'avoue, je découvre un peu cette question. J'étais jeune, j'avais 30 ans. Et donc, je dis, mais je comprends pas pourquoi on brûle des drapeaux israéliens dans une manifestation contre la guerre en Irak. Ça n'a pas de sens. On est pour une solution à deux peuples, deux États. La défense de la cause palestinienne, elle passe aussi par le respect, évidemment, de la sécurité d'Israël. Il faut se rappeler d'où vient l'État d'Israël. On est responsable aussi de notre histoire, de ce qui s'est passé au cours du XXe siècle, de la Shoah. On peut pas faire comme si cela n'avait pas existé. Et donc, deux peuples, deux États, ça veut dire que si on défile avec des drapeaux, faut qu'on ait les deux drapeaux ensemble, israélien et palestinien, côte à côte, comme le symbole de cette solution à deux peuples, deux États. Mais alors là, que n'avais-je pas dit, puisque j'ai subi un tombereau d'insultes et d'attaques. Enfin, ça a été extrêmement violent. Et là, j'ai découvert, oui, qu'il existait une forme d'antisémitisme à gauche. Alors, pas de toute la gauche, et je tiens à être très claire là-dessus, hein. Pas de tout le monde, heureusement, parce que l'antisémitisme, normalement, c'est vraiment un combat fondamental pour la gauche. Mais que au nom de la critique de la politique du gouvernement d'Israël, finalement certains basculaient assez vite dans la critique de l'existence même de l'État d'Israël et dans une forme d'antisémitisme.
Vous vous dites toujours sioniste pro-palestinienne?
Oui, parce que d'abord quand on dit sioniste, ça veut dire juste, ou ça veut dire défendre l'existence, le droit à l'existence et à la sécurité d'Israël. Ça veut pas dire défendre la politique du gouvernement israélien, surtout celui aujourd'hui de Benjamin Netanyahou. Ça c'est évident. Mais néanmoins, défendre la possibilité effectivement de l'existence et de la sécurité de l'État d'Israël, ça me semble absolument au cœur, tout engagement progressiste, enfin évidemment.
Et vous,
et encore une fois, au nom aussi de l'histoire, on ne peut pas. Moi, je n'accepte pas les gens qui disent disent que finalement Israël, enfin le gouvernement d'Israël prend prétexte de la Shoah, etc. Je n'accepte pas ça. Ça me heurte profondément parce que je pense que nous sommes tous aujourd'hui en Europe, on est tous malheureusement les enfants de la très grande tragédie du XXe siècle, la plus grande tragédie du XXe siècle, c'est-à-dire la Shoah.
Et est-ce que vous pensez toujours qu'en encourageant la distinction entre antisioniste et antisémite, la gauche encourage les discours antisémites?
Oui, oui, je le pense. Je pense que ce sont des querelles de mots byzantines qui révèlent un refus de voir en face ce problème massif qui est celui de l'antisémitisme. Et encore une fois, je condamne avec la plus grande fermeté ce que fait Benjamin Netanyahou, son gouvernement et la manière dont il mène aujourd'hui cette guerre terrible à Gaza. Mais pour moi, ça n'est pas critiquer cette politique-là ne veut pas dire remettre en cause l'existence d'Israël.
Et est-ce que être antisioniste, c'est être forcément antisémite ?
Si on est un historien du sionisme, si on est un spécialiste de l'histoire du sionisme, de l'histoire d'Israël, effectivement, alors là, on peut dire est-ce qu'il faut être sioniste, etc. Mais il faut voir qu'aujourd'hui, pour la plupart des gens qui utilisent ce mot, finalement, quand ils disent sioniste, c'est comme s'ils disaient juifs. Et donc, quand ils sont antisémites, quand ils se disent antisionistes, pour beaucoup de gens, c'est une manière acceptable, finalement, d'être antisémite.
Alors, on va avancer un petit peu à ce moment. Alors, ensuite, vous rejoignez à cause de tous ces problèmes avec les écologistes, mais il y en a d'autres. Il y a aussi des investitures qui ne sont pas données à certains, bon, en 2006 en Moselle. Mais à ce moment-là, vous quittez les Verts en 2006. Et vous êtes contacté par Patrick Mennucci du Parti Socialiste. Il s'occupe de la campagne présidentielle de Ségolène Royal et il vous propose de la rejoindre, même si vous aviez déjà, vous, rédigé une note à l'intention de la candidate sur la Lorraine.
Oui, alors avant ça, c'est surtout qu'en 2003, j'ai publié un livre qui est un livre sur l'histoire de la Lorraine et du monde ouvrier en Lorraine. Et ça, c'est ce livre-là, Les derniers jours de la classe ouvrière, qui a fait que finalement l'équipe autour de Ségolène Royal me contacte parce que elle doit faire un déplacement en Lorraine à Longwy, très exactement. Et donc, il me propose de faire une note pour elle sur l'histoire de la Lorraine, ce que je fais. Et ensuite, elle m'invite à participer à ce voyage à Longwy. Et c'est comme ça que l'histoire commence avec Ségolène Royal.
Quelle qualité faut-il pour être plume d'une candidate à la présidentielle ?
J'étais pas vraiment plume, elle avait pas besoin vraiment de moi pour faire ses discours.
Vous étiez conseillère,
j'étais l'une de ses conseillères, on va dire. On parlait de tous les sujets, c'était très polyvalent. Mais je crois que dans les qualités, c'est qu'il faut être engagé, quoi. Enfin, faut défendre les idées de sa candidate ou de son candidat. Et puis, il faut essayer d'être curieux aussi, d'aller chercher des idées un peu partout, de nourrir intellectuellement. La candidate voilà, ou le candidat.
Quel rôle ont les lettres dans votre parcours politique, Aurélie Filippetti ?
Essentiel, parce que je trouve que finalement la littérature, elle apprend tout, quoi, en fait. Elle donne aussi la distance nécessaire par rapport à la vie politique, par rapport au pouvoir ou à la quête de pouvoir ou à la soif de pouvoir. Par rapport aux déceptions qu'on peut avoir dans le monde politique, voilà, dans la littérature, on trouve que ce soit dans Balzac, dans Shakespeare, enfin voilà, dans Stendhal, on trouve absolument la peinture du monde est aussi le meilleur remède face aux désillusions que peut apporter la politique.
En ce moment, par exemple, qu'est-ce que vous conseillez de lire ?
Alors, moi, j'ai. En ce moment, il faudrait. Enfin, peut-être. Finalement. On parlait de la Boétie tout à l'heure. Enfin, vous en parliez tout à l'heure de la Boétie. Donc, c'était. L'ami Montaigne, un grand penseur qui était à l'origine de l'humanisme et qui disait finalement les rois ou les princes ou les tyrans ne sont puissants que parce que nous sommes à genoux. C'est-à-dire qu'en fait, on accepte tous collectivement une forme d'aliénation, une forme de soumission à tout, que ce soit aujourd'hui aux réseaux sociaux, à la propagande populiste, aux messages de la société d'hyperconsommation, etc. Tant qu'on accepte ça, finalement, c'est comme si on était complice de notre propre aliénation. Mais il n'y a aucune fatalité à ça. On peut aussi choisir de dire non et de faire autrement.
Qu'est-ce que vous vous dites quand vous arrivez à rue de Valois comme ministre de la Culture?
D'abord, je me dis que je suis... d'abord, je pense à ma famille. Enfin, je suis très fière, quoi, en fait, tout simplement. Mais aussi que j'ai une immense responsabilité parce que c'est... La culture en France, depuis André Malraux, depuis 1959, c'est lui qui crée le ministère de la Culture, avec cette ambition-là de donner au plus grand nombre, et en particulier aux plus défavorisés, accès aux chefs-d'œuvre de l'esprit. Et ça, c'est une responsabilité immense, parce que on sait très bien que l'accès au beau, l'accès à l'art... Il n'est pas donné comme ça d'une manière spontanée. Il faut des médiations, il faut des processus d'éducation, etc. Donc je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, à l'ère du numérique, bien sûr, mais avec une France quand même avec des territoires qui n'ont pas tous les mêmes facilités d'accès. Comment on peut faire pour améliorer tout ça finalement?
Et vous auriez aimé faire plus à ce ministère parce que il a été critiquer votre bilan, les baisses bien sûr des budgets, moins 4% en 2013, moins 2,8% en 2014, la réforme de la loi Hadopi, vous y renoncez, vous avez fait la loi pour l'indépendance de l'audiovisuel public, est-ce qu'il aurait fallu aller plus loin là-dessus d'ailleurs, vous faites en sorte que ce soit non plus le président de la République directement, mais le CSA devenu l'ARCOM de nommer les présidents et présidentes de chaînes et radios publiques, même si le président de l'ARCOM est nommé par le président de la République, qu'est-ce que vous avez comme regret, comme politique publique que vous auriez aimé mener?
Le regret de la baisse du budget la première année, ça a été effectivement très très dommageable. Et bon, j'en ai été victime. Mais je suis quand même très fière d'avoir lancé la féminisation des postes du ministère de la Culture et des postes dans la culture. Et ça a été extrêmement extrêmement violent à ce moment-là parce que on m'a accusée de vouloir en gros mettre des femmes incompétentes à la place d'hommes talentueux. Et ça c'était mais j'en suis extrêmement fière de ça et ça a continué. Et
puis la deuxième chose, Taubira faisait à peu près la même chose à Place Vendôme au même moment.
Oui, absolument. Et là mais à l'époque, on était vraiment dans un monde où il y a eu des tribunes contre moi à cause de ça. Et puis la deuxième chose, c'est que j'avais dit l'éducation artistique et culturelle doit être la priorité pour le ministère de la Culture. Ça veut dire que dans tous les établissements, dans les programmations, il doit y avoir une part obligatoire de tous les programmes qui soient destinés aux jeunes, aux enfants, que ce soit par l'école ou pas par l'école. Et ça, voilà, ça c'est, j'en suis très heureuse. Mais dans les regrets, j'aurais aimé avoir plus de moyens pour ça. Oui, ça c'est certain. Et puis peut-être sur les médias, renforcer encore davantage tous les mécanismes qui empêchent la concentration excessive dans les médias. Parce que je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, donc 10 ans après, ce que l'on voit avec la mainmise de Vincent Bolloré sur une partie des médias est extrêmement inquiétant parce que c'est au service aussi d'un projet idéologique d'extrême droite.
Avez-vous été choquée quand votre successeur, Fleur Pellerin, a confessé ne pas avoir le temps de lire Modiano?
Je trouve que c'est surtout dommage pour elle, voilà.
Sens politique, l'archive de l'invité.
Je ne peux tout simplement pas venir en Allemagne. Il faut le comprendre. C'est une question que vous devez vous poser à vous-même. Vous voyez, si je venais en Allemagne, j'irais quand même rendre visite aux Allemands. Ce n'est pas le cas. Combien sont ceux qui sont encore en vie et qui sont pourtant très coupables? Il y en a encore des centaines, des milliers. Je ne veux pas les compter. Mais ils sont là. Ils n'ont pas tous été tués, ne sont pas tous morts, disparus ou en prison. Non, non. Ils sont présents. Si une seule de ces personnes se trouvait dans la salle de concert, je mourrais de honte. Vous voyez, je ne pourrais pas vivre cela.
Le pianiste Arthur Rubinstein, le 6 novembre 1965, lors d'une interview à la télévision allemande SWR depuis Strasbourg. Pourquoi cet extrait, Aurélie Filippetti?
Parce qu'on est en 2025 et qu'on va célébrer les 80 ans de la libération d'Auschwitz dans 3 semaines et les 80 ans de la fin de la guerre contre la barbarie nazie. Et je crois que voilà, à la source de mon engagement politique, il y avait ça, tout simplement, le fait qu'on est les héritiers de cette histoire-là. Quand j'étais prof à Sciences Po, j'avais des étudiants qui étaient des réfugiés syriens, afghans, soudanais, et je leur faisais étudier Primo Levi, si c'est un homme, et je leur disais, vous voyez, souvent ils avaient très peu entendu parler de la Shoah. Je leur disais, vous venez vivre en Europe, il faut que vous connaissiez l'histoire de l'Europe. Et l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire de la Shoah. On peut pas connaître, on peut pas vivre en Europe si on connaît pas cette histoire-là.
Aurélie Filippetti d'être venue dans Sens Politique. On se quitte sur ces notes de Frédéric Chopin interprétées par le pianiste Arthur Rubinstein que vous avez choisi comme archive. C'est l'étude numéro 12 en ut mineur opus 10.
Et merci à vous et simplement grâce aussi au travail qui a été fait après la guerre, on a pu construire l'Europe. Et donc ce que dit Rubinstein en 65, heureusement aujourd'hui on a pu le dépasser.
Merci d'être venue dans Sens Politique, Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture, aujourd'hui directrice des affaires culturelles à la mairie de Paris. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur franceculture.fr et sur l'application Radio France à la page Sens Politique. Merci et bienvenue à Léa Varin qui m'a aidée à préparer cette émission, à la réalisation Luc-Jean Reynaud, à la technique Étienne Rouche, à la vidéo Édouard Rubinstein. Très bel après-midi sur France Culture.
France Culture.
Une heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale.
Zoé Svez.
On se retrouve donc chaque samedi pour une émission toujours libre de tous les genres, de tous les récits, de tous les portraits, des grandes voix aux genres inconnus, des métiers cachés aux albums cultes, un récit toujours subjectif et non exhaustif avec un maître mot, le plaisir.
La série musicale. Chaque samedi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Avec sa coupe au bol et ses lunettes rondes, sa manière de rire sous cape et ses sacrées vacheries pour créer l'hilarité chez les adultes comme chez les enfants, Cabu est devenu le dessinateur de toutes les générations.
Anaïs Quien.
Alors on reprend l'histoire depuis le début pour passer un moment avec lui, le grand Duduche, le beauf, l'adjudant Cronenbourg, sans oublier le nez de Dorothée.
Toute une vie, ce dimanche à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
La semaine prochaine, je reçois l'ancien commissaire européen Thierry Breton. Envoyez-lui toutes vos questions à cette adresse senspolitique@radiofrance.com. Il est 13h30 sur France Culture. Vous avez rendez-vous avec le premier épisode de l'histoire particulière du week-end.
Je vois une nénette qui chante. J'ai bien dit une nénette.
Hubert Ballet.
Grande bringue.
2012.
Au long nez, au long nichon. Un peu maigrichonne et un peu grasse. Ça dépend de quel endroit. Elle s'appelle Barbara.
Ça a été une grande passion entre vous et Barbara.
Oui, ça a été une très grande passion. Souvent, la plupart des couples, ils sont comme des cons, à toujours être collés l'un à l'autre. Et ils finissent par tellement par se lasser qu'ils ne s'aiment plus.
Comment est-ce que vous arrivez à chanter si bien l'amour ?
Parce que j'en ai rêvé, sans doute, parce que j'en ai vécu des amours très belles. On m'a quitté et j'ai quitté. Pour moi, rien n'est possible sans amour. Rien n'est possible. Peut-être parce que c'est difficile à vivre, parce que peut-être les hommes et les femmes ne sont pas prêts à vivre ensemble. Je n'en sais rien. Mais parce que c'est ce qui aura conduit toute ma vie.
Voilà combien de jours. Voilà combien de nuits.
Barbara a longtemps eu l'image d'une femme solitaire, seule. Ce qu'elle était,
Valérie
ce qu'elle vivait seule le plus clair de son temps, mais c'était aussi une très très grande amoureuse, ce qu'elle n'a d'ailleurs jamais caché. Elle a dit qu'elle aimait les hommes ils m'ont faite, dit-elle dans une interview. Barbara, je ne sais pas si elle a passé beaucoup de temps à ne pas être amoureuse, elle vivait des passions absolument flamboyantes, qui étaient, elle disait « j'ai pas le talent de vivre à deux », et chez elle, l'amour ne pouvait pas se conjuguer au rythme du quotidien et d'un quotidien tranquille. Hein. Il fallait que